Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de The Podcast, déjà l'épisode 4 et 8, on enchaîne, toujours en compagnie de Stomy.
Salut à tous, salut Gohan.
Encore une fois, on va parler jeux vidéo, séries, mangas et comics, un programme bien chargé, mais qui je l'espère va vous plaire. On va commencer tout de suite avec Mario Kart Live. C'est moi qui vais vous en parler d'ailleurs de ce jeu, une exclusivité Nintendo Switch, on s'en doute bien, puisque de toute façon la production de jeux Nintendo 3DS a été arrêté, la production de consoles a été arrêtée, on oublie clairement la 3DS et toute la famille 3DS qui va autour, que ce soit le 2DS XL, etc., hein, tous les cousins, quoi. Maintenant, on n'est que sur Nintendo Switch. Moi, c'était une annonce qui m'avait beaucoup plu, ce Mario Kart Live, parce que j'avais l'impression de vivre un rêve d'enfant, pouvoir conduire une voiture téléguidée avec un visuel de cette voiture, donc en direct, grâce à une caméra embarquée. Le tout dans un univers Mario Kart Live, enfin dans un univers Mario Kart, je trouvais ça, mais bon, franchement fantastique. Lors de l'annonce, donc j'étais vraiment chauboulette. Après, il y a eu le prix, 100 euros, j'étais un peu moins chauboulette.
Tu m'étonnes.
Mais d'un côté, ça peut se comprendre parce que on est dans un jeu avec une réalité augmentée, on est dans un jeu qui nous propose une technologie bien différente. On est dans une conception d'un kart vraiment bien foutu, une belle petite taille, ça doit faire 15-20 cm à peu près. Il y a toute la technologie dedans, donc ça, il y a du Wi-Fi, du Bluetooth, tu as une caméra qui retransmet en direct. Bah après, voilà, tu as aussi le coût de la production, de la licence. Alors 100 balles pour moi, ça reste quand même très cher. Connaissant Nintendo, ils vont pas baisser le prix parce que c'est vraiment pas dans leur délire de baisser des prix de toute façon, surtout dans leur licence forte. À côté du kart, il faut savoir que vous avez quelques morceaux de carton qui sont en fait des portails. Grâce à ces portails, vous pouvez donc créer votre propre circuit. C'est là tout l'intérêt de Mario Kart Live, c'est que vous allez pouvoir créer vos propres circuits chez vous. Alors le jeu et le kart a plus ou moins une portée de 18 mètres, hein, c'est du Bluetooth, donc c'est clairement une portée de 18 mètres, sauf si vous avez des gros murs ou quoi. Là, automatiquement, ça va se réduire. C'est comme quand vous avez un casque Bluetooth avec votre téléphone. Voilà, pensez à ce système-là, c'est clairement similaire. Mais par contre, si vous avez une pièce ouverte qui fait, je sais pas, 90 mètres carrés, donc bon, les Parisiens, désolé, c'est pas possible. En gros, vous allez pouvoir faire des circuits de psychopathe, quoi. Moi, je l'ai fait dans mon salon qui est pas forcément grand, mais dans lequel il y a un canapé, des chaises, une table, il y a mon escalier qui traverse. Voilà, c'est un
Il y a
bordel.
un chat,
Et
un
j'ai un
gosse, une
chat,
femme.
j'ai un enfant de 15 mois qui pense que le jeu est à lui, donc il veut le choper. Croyez-moi, j'avais des obstacles dans tous les sens. En réalité, vraiment excellent. C'est vraiment, vraiment excellent. Et d'un côté, j'ai trouvé la conception en soi bien pensée, quoi. C'est très rapide à installer. Donc vous mettez vos portails dans les sens où vous voulez. Donc vraiment le 1, 2, 3, 4. Vous faites le tour du circuit en passant par les portails. C'est automatiquement détecté par la caméra. Déjà ça, prouesse technique, franchement c'est vraiment bien foutu. Et automatiquement ça crée votre circuit. Ensuite vous allez sélectionner votre type de course, donc vous pouvez faire un grand prix, vous pouvez faire des courses normales, vous pouvez faire des contre-la-montre, vous pouvez faire du multijoueur local aussi, j'en parlerai un peu plus tard. Et à partir de là vous pouvez aller jouer en 50cc, 100, 150 ou 200, ça va aussi varier la vitesse de votre carte. Et voilà, vous avez plusieurs coups, plusieurs compétitions. Enfin, franchement, en soi c'est hyper bien pensé. Pour moi le défaut finalement de ce jeu, c'est que bah c'est pas comme Mario Kart 8, quoi. D'habitude, tu t'installes dans ton canapé, tu t'allumes la Switch, tu lances une course. Ça te prend 10 secondes, plus ou moins. Là, effectivement, tu prépares le circuit, faut que tu passes le portail, tu vois, faut qu'il y ait une petite réparation en amont. Mais c'est pas le même délire, c'est pas le même concept, en fait. C'est ça la grande différence. Mais ce qui peut être très cool, c'est de pouvoir créer vraiment des circuits complètement loufoques. Moi, j'ai hâte de voir les Japonais et puis les non-Japonais, parce qu'il y aura aussi des Européens ou même d'autres continents qui vont faire des trucs assez exceptionnels au niveau des circuits. Je sais qu'ils vont faire des trucs de fou avec limite des loopings et compagnie. Enfin, j'ai hâte de voir ça parce que ça va être un délire. Là, déjà sur Internet, on voit déjà énormément de vidéos où il y a des chats qui poursuivent les cartes. C'est déjà, franchement, c'est super drôle. Et c'est là que tu vois qu'il y a un délire derrière qui peut être vraiment extraordinaire avec tout ça. Moi, j'adore ce concept. Mais voilà, pour moi, ouais, 100 balles, c'est un peu cher, c'est vrai. Après, il y a la technologie qui est derrière. Est-ce que c'est un gadget ou est-ce que c'est vraiment un jeu vidéo? C'est un petit mélange des deux. Je pense que tu peux passer des bons moments. Alors déjà, tu passes des moments seul parce que finalement, c'est là que je reviens sur le côté multijoueur local. C'est qu'en fait, pour jouer en multijoueur local, il faut une Nintendo Switch et un kart par personne.
Ah ouais.
Ça revient quand même assez cher, quoi. Tu vois, ça si tu veux jouer avec tes deux enfants, faut trois Switch et trois cartes, quoi. Ça commence un petit peu. On va pas se mentir que là, ça commence à piquer des masques, quoi. C'est le côté un peu négatif du truc. Mais voilà, c'est vraiment pour moi, c'est un gadget vraiment hyper intéressant. Alors, effectivement, je vais pas forcément y jouer tous les jours parce que c'est la préparation, parce que c'est du temps, etc. Mais je pense qu'avec des copains et puis même pour montrer un peu la technologie de cette Nintendo Switch et de ce kart, ça c'est assez intéressant. Franchement, moi, j'ai trouvé ça vachement sympa. Et je peux pas vous parler graphiquement parce que graphiquement, au final, bah, c'est la caméra, c'est votre salon. Donc, si vous trouvez ça moche, bah, changez de salon, les gars. Moi, je peux rien faire d'autre. Tu vois, on arrive dans un délire. Mais on retrouve quand même c'est des détails, mais on voit un peu la caméra, elle est au-dessus de Mario, tu vois, ou de Luigi. T'avais deux voitures possibles. Donc, tu vois un peu la silhouette de Mario. Et genre, quand tu fais marche arrière, tu vois Mario qui se retourne et qui penche sa tête à l'arrière. Déjà, moi, rien que ça. Ça me fait délirer. J'adore ce genre de détails. Je trouve ça tellement fun, tellement mignon. C'est du Nintendo, ils sont trop forts pour ce genre de truc. Ils sont vraiment très forts. T'as les petits bruits qui sont les bruits de Mario Kart depuis le début. Ça fait, je sais pas, ça fait 15-20 ans de Mario Kart. C'est même plus. Bah non, ça fait, ouais, je sais plus. Bref, une vingtaine d'années que ça existe, ça fait une vingtaine d'années que c'est les mêmes bruits. Depuis et ça changera jamais. Comme Pokémon. C'est ça, comme Pokémon. Pourquoi changer des bruits quand tu sais que les gens sont fans? De un, si tu les changes, t'as les fans qui vont dire c'est de la merde. Et t'as les gens qui vont dire, bah, je préférais avant, tu vois, donc oui, pourquoi changer, tu vois, donc il faut rester dans les mêmes bases. Et voilà, pour moi, Mario Kart Live, c'est vraiment un délire bien différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et rien que pour ça, Nintendo mérite de la force, quoi. C'est vraiment pour moi, c'est un concept qu'ils ont réussi à mettre en place assez rapidement parce qu'on n'en avait pas vraiment entendu parler de ce jeu-là. Et en quoi, c'est un peu à la Apple, quoi. En 2 mois, le truc il était disponible, quoi. Donc je trouvais ça quand même assez fort. Je trouvais ça assez cool.
Ça a été annoncé pour les 35 ans de Mario, hein.
C'est ça.
Avec les 5 annonces de 5 jeux différents, c'est parti de là. Hein.
Ouais, mais je trouve que tu vois, d'habitude, t'as quand même plus ou moins 1 an, 2 ans, parfois beaucoup plus en fonction des jeux, mais souvent t'as quand même minimum 1 an ou 2 ans entre l'annonce et la sortie. Là, voilà, il s'est passé quelques mois.
Secret,
c'était bien secret et je trouve que c'est vachement cool aussi quand on t'annonce quelque chose et que. Un peu à l'Apple, quoi. C'est disponible le lendemain, je trouve ça tellement fun. En vrai, ça te crée encore plus une hype, je trouve. Parce que jeu, il est annoncé 4 heures avant, limite, tu l'as oublié, quoi. Il y a eu des nouveautés entre deux, tu as peut-être changé d'avis, quoi. Tu as peut-être changé de délire, quoi. Ta vie, elle a changé, peut-être aussi, entre deux.
C'est ça.
On va parler d'un autre jeu, on va parler de 9 Monkeys of Charlene. Ouais, je sais, j'ai pris des cours d'anglais.
J'aurais même pu parler derrière toi, là. C'est fini.
Ouais, je sais. C'est impressionnant, je sais, mais bon.
Je vais te laisser
parler. Tu peux. Ah, mais alors, moi, j'y ai pas joué, donc je vais pas pouvoir dire grand chose. Pas pouvoir forcément vous aider. C'est un jeu qui est disponible sur Switch, PS4, je crois, aussi.
Moi, j'ai eu la version Switch. Donc,
toi, t'as eu la version Switch.
J'ai demandé la version Switch. Parce que j'aime bien de temps en temps avoir des jeux autres que les traditionnels sur PlayStation. Donc,
je confirme, c'est sorti sur PS4, Xbox One, PC. Bon, voilà. Bref, c'est sorti partout.
C'est sorti partout. Mais je trouvais ça intéressant d'avoir ce type de jeu et sur cette console-là pour voir un peu ce qu'elle avait dans le ventre et voir un peu les manettes et les Joy-Con, comment ils allaient réagir à ça. Alors, c'est quoi ce jeu? C'est tout simplement un beat'em all. C'est quoi un beat'em all? Ceux qui connaissent pas, bah, suffit.
T'as pensé que tu tapes partout. Ça, c'est la vie.
Bah, voilà. C'est Street of Rage. Sur Mega Drive ou récemment sur la Switch qui est ressorti aussi ou même sur PlayStation pardon, Golden Axe, Double Dragon, Final Fight, tous ces grands jeux des années 90 qu'on a tous plus ou moins joué si on est fan de jeux vidéo, sont des jeux où tu avances et tu frappes et tu cherches pas à comprendre. Tu avances, tu frappes et tu butes le méchant à la fin. Voilà, pas besoin de scénario, pas besoin de rien du tout, que ce soit fluide, que les coups soient faciles à sortir, que t'aies des coups puissants de temps en temps, et puis la sauce prend, et puis t'es content, puis tu joues avec des potes, et puis c'est l'éclate. Sauf que là, tu peux redire le nom du jeu s'il te plaît, tu lis tellement bien, franchement.
9 Monkeys of Charlene.
Oh là là là,
je sais.
C'est pour ça que t'es le chef. Sauf que là, donc ce jeu, 9 Monkeys of Shaola, nous offre une vraie histoire et nous plonge dans l'univers de la Chine et du moine Shaolin, mais on est bercé dedans. C'est le dernier podcast, je parlais de mafia. Bah là, pour un beat'em all, Ben, j'étais dans le jeu, j'étais vraiment la musique, les personnages, la façon dont est traité le héros, donc Wei Cheng, qui est un pêcheur chinois qui a quand même une base en kung-fu, parce que ça reste un jeu de kung-fu.
C'est une
Donc
bagarre.
voilà, c'est de la bagarre, c'est un kung-fu, mais y a, limite, je voyais des clins d'œil qui n'existaient pas à la série, par exemple, de l'époque des années 80, 80, ouais, des années 80 kung-fu, où il y avait l'acteur tout seul, celui qui était Bill, dans Kill Bill, pour ceux qui ont connu de Quentin Tarantino, il est où il se balade tout de village en village, et puis bah, il se bat quand il doit se battre parce qu'il n'a pas trop le choix. Bah là, limite, j'ai cet univers de kung-fu chinois. Tout est fait, la musique, les univers, les personnages, tout. Et bon, le personnage va évoluer, va progresser. Donc, il y a un tout petit côté RPG dedans, où bah, il y a des entraînements, où il y a un maître Shaolin qui va lui apprendre de nouveaux coups.
Tu vas tester des nouvelles choses,
Et
non?
voilà, il va lui enseigner. On va pouvoir améliorer son arme, qui est un bâton. Donc, on va pouvoir avoir plusieurs sortes de bâtons différents. Bon, on restera toujours au bâton. Mais voilà, le personnage va monter en puissance, va pouvoir récupérer des objets pour augmenter sa santé. Voilà, il va avoir plusieurs panoplies. J'ai trouvé certaines choses intéressantes, comme la possibilité de renvoyer une attaque ou un objet quand on nous le lance. Et ça, on ne voyait pas ça dans les beat'em all généralement, ou alors c'était un coup de bol. Mais voilà, on va prendre un coup de fléchette ou quoi que ce soit, et sur un coup de pied, voilà, sur un gros coup de pied, notre héros va renvoyer l'ustensile, j'allais dire, l'arme contre l'adversaire. Voilà, tout est vraiment bien fait. C'est propre, c'est beau, c'est fluide. Ça va tout seul. Et on est vraiment, ouais, dans l'esprit kung-fu des années 70. Rien que ça, on a l'impression d'être dans un film, quoi. On suit l'histoire parce que du coup l'histoire nous intéresse. Donc d'habitude, bah, tu dois sauver la pauvre fille du maire qui s'est fait ou de ton pote qui s'est fait cambrioler, enfin kidnappé pardon, et qui est avec un gros méchant tout en haut d'une tour. Bah là, pas du tout. Là, tu dois juste tuer des pirates qui sont venus détruire ton village. Et t'as toute une histoire avec ces moines, hein, qui sont là pour t'héberger, t'aiguiller et t'aider. Et voilà, il y a un côté aventure très intéressant dans ce jeu. Ça change complètement de Shaq Fu Legend Reborn que j'avais fait il y a quelques temps sur la Switch, qui était le reboot du jeu Shaq Fu de la Mega Drive des années 90, qui était Super Nintendo, où là, bah, t'avançais, tu frappais, t'avançais. Mais depuis ce jeu-là, j'en avais pas refait. Et donc, quand il y a eu cette possibilité de Koch Media, ou Koch Media d'ailleurs, de nous proposer ce jeu, je dis bah banco, je veux voir un peu ce que ça fait. Donc c'est vraiment bon. Donc la base reste vraiment un beat'em all, mais il y a vraiment un côté aventure très sympa, même si ça reste du 2D linéaire horizontal, c'est vraiment très bon, quoi. Donc moi, des jeux comme ça reste de très bonnes surprises. J'espère vraiment revoir, hein, de la même trempe, hein, de la même proposition de conception graphique, gameplay, etc. Parce que c'est vraiment intéressant, et c'est sympa parce que tu passes un bon moment et tu détruis pas tes manettes. Et ça, c'est pas plus mal, parce que les bandes d'arcade, elles se rappellent encore de mes coups de poing dessus quand tu n'avais pas sorti un coup de pied ou un coup de poing au bon moment. Et pour la petite anecdote, il est en français. Alléluia.
Mais ça, c'est cool.
Et
Clairement, ça, c'est cool. On va enchaîner avec un dernier jeu vidéo, c'est Crash Bandicoot 4, donc il y a la suite 2. Crash Bandicoot 3,
waouh.
etc., etc. Alors, ça arrive des années, des années et des années après. Moi, c'est une licence que j'aime beaucoup, Crash Bandicoot. Ça me rappelle clairement de bons moments sur PlayStation. J'avais adoré quasiment tous les Crash Bandicoot. Alors, ce n'est pas forcément des jeux qui étaient faciles déjà à l'époque. Faut pas se mentir, parce que il y avait un gameplay
Particulier.
assez imprécis, assez indécis aussi. C'est-à-dire que parfois tu as l'impression de sauter 30 cm et parfois tu en sautes 15, et pourtant tu appuies sur le même bouton avec la même puissance. C'est toujours ça qui était un peu rageant du côté de Crash Bandicoot, mais je trouvais que l'univers était tellement intéressant, le Bandicoot en soi, les sons, l'ambiance. Franchement, moi j'ai toujours beaucoup aimé cette licence, et j'étais vraiment hyper content de voir qu'il était de retour. Donc c'est disponible sur PS4 et Xbox One depuis le début du mois d'octobre. Alors c'est franchement, j'ai l'impression de jouer à Crash Bandicoot 1 sur PS 1, parce qu'en fait le gameplay n'a quasiment pas bougé. Alors c'est à la fois positif et négatif, dans le sens où on a les mêmes souvenirs, on a les mêmes principes, on a les mêmes bases, mais on a aussi les mêmes défauts.
Crash kit.
qui font aussi un peu le charme, hein, mais qui font aussi pas mal rage kit, comme tu peux dire, parce que moi, il y a des fois où je suis mort une quarantaine de fois facilement dans le niveau, quoi. Et pas parce que j'étais mauvais, enfin si, un peu quand même, je pense aussi, mais si, si, il y a de ça, il y a de ça. Mais aussi parce que je te dis, des fois, t'as l'impression que ton saut est différent d'un moment à l'autre, quoi, alors que bah, il devrait pas, quoi, tu vois, tu te dis, voilà, c'est un code binaire, si ça saute, ça saute, quoi, point final. Mais en fait, non, on a l'impression que des fois, c'est moins précis qu'on peut le penser. Alors le jeu rajoute quelques petites possibilités, hein. T'as une grosse rejouabilité parce que tu peux jouer le jeu, enfin tu peux jouer le niveau avec un autre personnage. Tu peux te donner des missions comme l'obtention de toutes les caisses et des diamants, etc. Alors là, franchement,
ouais,
c'est chaud boulette. Franchement, c'est chaud boulette. On va pas se mentir. Il y a de quoi passer vraiment beaucoup beaucoup d'heures. Le jeu en soi, dans l'ensemble, en une dizaine d'heures, t'as plus ou moins terminé le jeu. C'est ce qu'il faut se dire. Après, t'as un multijoueur local en tour par tour. T'as aussi un mode inversé, donc en gros où tu fais le niveau en mode inverse, quoi, soit en mode miroir.
Ouais.
Mais voilà, enfin, pour moi, Crash Bandicoot 4, c'est une réussite parce que bah, ça m'a rappelé des bons souvenirs. J'ai pas eu l'impression d'avoir un gameplay qui avait totalement changé. D'un côté, c'est cool parce que bah, t'as ce même univers aussi un peu en 2D linéaire parfois. Et parfois, tu changes de profondeur, tu es dans une 3D, tu sais, plus horizontale que verticale.
Ouais.
Donc, t'as les deux, quoi. T'as vraiment le mélange de l'ancien et du nouveau, le tout dans un habillage vraiment graphiquement très très joli, très coloré, avec encore une fois des mondes tellement différents. T'es dans la neige, t'es dans la jungle, t'es dans la ville. T'as aussi quelques clins d'œil. J'ai croisé un Spyro, tu vois, Spyro le dragon. Enfin voilà, c'est cool. Et comme je le disais, bah, d'ailleurs, pour Mario, ils utilisent encore les mêmes sons qu'avant. Tu vois, le ouais. Ouba Ouba, tous les trucs ah, comme oui. ça, t'as toujours les mêmes sons. Ouais, Ouba Ouba, un truc comme ça. T'as vraiment. Bah, c'est le même délire, hein, c'est plus ou moins le même animal, au final. Hein. On doit pas être si loin. Mais je trouve que t'as vraiment les mêmes sons et je trouve qu'en fait, c'est bien. C'est... Voilà, il faut pas. Ce genre de détails, il faut pas forcément les changer. Ce qui est cool, c'est que c'est plus une exclusivité PlayStation. Donc, si vous avez une Xbox, vous pouvez aussi y jouer. Enfin, et c'est déjà disponible. c'est disponible pour une cinquantaine d'euros sur Xbox ou sur PS4. Donc voilà, si t'es fan, je pense tu devrais foncer y jouer. Ça peut aussi te donner la possibilité de jouer à la trilogie qui était déjà sortie, je crois, pour le coup exclusivement sur PS4. Si je dis non, sur PS4 et Xbox One, et même sur Switch. Sur les trois consoles, pour le coup.
Il y a 2 ans.
Elle est sortie. Il y a 2 ans, ouais. Et ça, pour le coup, il y avait une paire de personnes qui avaient ragé parce qu'ils ne se souvenaient plus à quel point, et parfois c'était hyper difficile. Je me souviens d'un niveau là sur un pont où tu dois sauter de la corde en corde et de trucs en bois. Mais
les petits trucs en bois. Tu pouvais commencer en arrière pour récupérer des filles, machin, et après tu dois repartir en avant.
Ouais, c'est ça. C'est
et
ça.
Avec des trucs qui rebondissaient là, c'était à ce niveau-là.
C'est avec les tortues. Avec les tortues à la fin, t'as les tortues.
Tu pouvais pas leur sauter forcément des fois parce qu'il fallait rebondir dessus.
C'était incroyable. Franchement, je crois que c'est un des niveaux qui m'a fait le plus rager sur Crash Bandicoot. Où j'avais clairement envie de casser ma manette, quoi. Je me suis dit, mais putain, mais il se fout de ma gueule. C'est pas possible. Ce niveau-là, j'ai dû le faire, mais pendant une heure, je crois que la première journée, j'ai joué une heure. J'y arrivais pas. Et j'ai dit, tu sais quoi, j'arrête. Parce que je vais casser la télé. Et ça fait chier. J'ai pas envie de changer de télé. Donc je suis retourné, je crois, le lendemain. Et je crois, en 4 fois, je l'avais réussi. Je me suis dit, mais putain, mais pourquoi j'ai pas réussi comme ça hier? Pourquoi j'ai galéré pendant une heure? Pourquoi j'ai insulté toutes les mamans du monde? Tu vois? Mais non, c'est assez hallucinant. Mais voilà, c'est comme FIFA, quoi. C'est un jeu qui peut me faire rager, mais sur lequel je vais y retourner parce que je sais que je vais kiffer. Et là, Crash 4, il me reste, je crois, 4-5 niveaux avant de terminer le jeu. Mais j'ai envie de prendre mon temps parce que je suis pas sûr de forcément y retourner pour y rejouer, même si je pense que c'est un peu à la Rocket League, quoi. Quand je vais m'emmerder, je vais peut-être lancer un ou deux niveaux, tu vois. Rocket League, quand je m'emmerde, je lance une ou deux parties parce que, ouais, c'est kiffant, je rage pas trop, c'est plutôt mignon, je m'amuse bien. Je pense que sur Crash Bandicoot 4, ça peut être le même principe. Je peux essayer d'obtenir un peu plus de caisses ou de. Je sais qu'il y a un trophée, c'est genre de pas mourir une seule fois. Spoil, j'ai pas réussi pour l'instant. J'ai pas encore essayé sur des niveaux. J'avoue que sur des niveaux faciles, des fois, je suis mort comme une merde parce que je tente des trucs. Qui n'existe pas, tu vois. Je me dis peut-être là-bas il y a une caisse, je vais sauter loin. Et en fait non, c'est la mort qui t'attend au bout, tu vois, au bout du saut. Mais je tente quand même, je suis un peu chelou sur mon côté sadomaso avec Crash Bandicoot, c'est incroyable. Bon, très bien. Vous avez mon avis sur Crash Bandicoot. Achetez-le. Si vous aimez la licence, achetez-le. Ah bah, si vous n'aimez pas la licence, achetez-le.
Je vais clairement le prendre de toute façon.
Ouais, c'est vraiment, moi, c'est vraiment un jeu, une licence que j'aime beaucoup. On va partir sur le côté série du podcast. On va vous parler d'une série toute nouvelle, signée Canal+, qui s'appelle La Flamme, qui a fait le buzz depuis 2-3 semaines, je crois, sur Twitter et compagnie. Pourquoi ça fait le buzz ? Parce que, en fait, c'est une série complètement folle et complètement drôle. C'est inspiré d'une série américaine, Burning Love, produite par Ben Stiller. Là, on retrouve Jonathan Cohen, surtout en personnage principal. Alors, pour vous pitcher un peu le truc, on se retrouve avec Jonathan Cohen qui joue le rôle de Mark, un pilote de ligne. La ville lui a tout donné sauf une copilote, et en fait pendant 9 semaines dans une sublime villa il doit trouver l'amour parmi 13 prétendantes. Donc voilà, c'est un peu ce que vous pouvez avoir dans la télé-réalité de tous les jours là, avec les ch'tis à Mykonos et compagnie sur W9 et j'en passe, mais en version parodie quoi. C'est clairement une grosse parodie.
C'est
incroyable, les personnages féminins joués par des actrices ultra connues. Il y a du Florence Foresti, il y avait qui encore, alors moi les noms c'est toujours un peu compliqué, mais il y avait qui comme femme, bon bref, il y a beaucoup de femmes super connues dedans, et il y a de tout quoi. Enfin, c'est le casting, c'est un peu n'importe quoi, on va raconter rapidement. Il y a une mamie, il y a Florence Foresti qui joue une aveugle,
et t'as justement
t'as une psychopathe,
t'as une série, là je sais pas quoi,
ouais c'est ça, t'as une SDF, ouais t'as vraiment de tout dans le truc, c'est vraiment un
délire. Tu caches la bouffe dans la piscine et tout le bordel.
T'as une femme enceinte.
Oui, elle a une femme enceinte, et t'as
Jonathan Cohen qui, c'est ça, la meuf elle se cache tout le temps où elle vient de dos. C'est vraiment, mais franchement c'est du pur délire. Et ouais, c'est un humour très potage, très second degré, très what the fuck et tout ce que tu veux. Après, moi, j'aime beaucoup Jonathan Cohen.
Celle que je préfère, c'est la lesbienne.
Oui, la lesbienne, elle est impressionnante aussi. Elle est incroyable parce qu'en plus, lui... Et lui, c'est pareil, il voit vraiment strictement rien, quoi. Le mec, il est vraiment dans le truc et tout. Enfin, c'est vraiment... Mais on voit que c'est tourné avec beaucoup d'humour. C'est en 9 épisodes, c'est terminé. Il y a le coffret DVD qui va sortir pour Noël et compagnie. Vous pouvez retrouver ça en replay, je pense, sur Canal+. Mais franchement, moi, j'ai passé vraiment des bons moments. Et à chaque fois que... Là, il me reste 3 épisodes à regarder.
Moi aussi.
À chaque fois, je regarde, je me dis, mais putain, ils sont cons, quoi.
C'est presque dommage que Canal+, on ait passé 3 par soir.
C'est trop long.
Mais 3, c'était... Du coup, bah...
Alors déjà, ah, 3 semaines, c'est bouclé, quoi.
C'est trop rapide. T'en mettais 2, c'était bien, parce que le troisième, des fois, c'est un peu long. Fin de soirée, si t'as une journée de boulot un peu compliquée, il faut regarder en replay le lendemain ou avoir enregistré avec ta box. C'est pas toujours l'idéal, je trouve. Mais 3, ça fait long, je trouve, comme épisode. C'est assez drôle, hein. C'est du condensé.
Ouais,
c'est du 25 ça, minutes, une demi-heure l'épisode. Mais ça commence plus à 20h30 comme à l'époque. Bah, t'as pas connu, t'étais pas né, toi. Mais tu commences beaucoup plus tard.
Ouais, il faut savoir qu'une saison 2 a déjà été commandé hein, par Canal+. Ça m'étonne pas des masses quand tu vois le succès que ça a eu pour la saison 1, enfin le buzz qu'il y a eu autour de ça. Je pense que ça a vraiment cartonné et pour le coup, franchement, c'était tellement drôle. Moi, je suis chaud pour une saison 2 direct. Hein, je signe direct.
Ouais, moi aussi. Moi, je...
Alors, on est tous les deux à avoir regardé la série. On a tous les deux kiffé, donc c'est qu'il y a quelque chose. Si vous vous emmerdez, si vous n'avez pas le sourire, si vous déprimez, foncez quoi. Vous allez kiffer. Par contre, vous allez.
On a un humour de merde tous les deux, mais
on a aussi un humour de merde. Il y a peut-être là un lien aussi dans tout ça. J'avoue qu'il y a un lien entre ce que vous avez fait, j'en suis sûr.
Ça doit être ça.
On va enchaîner avec un comics. Tu vas nous parler. Tu nous avais promis ça dans le précédent podcast de Miles Morales. Un comics dispo chez Panini, je pense.
Oui, toujours Panini.
Toujours chez Panini.
Toujours Panini, avec qui on a un petit partenariat et qui nous envoie régulièrement des comics pour que je les lise et que je vous fasse un retour. Donc bon, là, je profite du podcast pour faire un retour. Donc, je surfe un peu sur le futur jeu PS5 qui va sortir le 19 novembre, si je ne m'abuse, ou 26 novembre, je ne sais plus. Day One PS5, hein, donc 19, ouais. Miles Morales, donc clairement le remplaçant de Spider-Man, parce qu'il y a une, euh, y a, y a une planète sur un, où Spider-Man meurt. Alors, il y a différentes versions. Il y a Spider-Man qui meurt parce qu'il prend une balle à la place de Captain America. Donc, ça, c'est la vraie mort de Spider-Man. Et donc, du coup, le nouveau Spider-Man qui arrive, c'est Miles Morales. Donc là, dans la temporalité où on est, Spider-Man meurt aussi, mais d'une autre façon. Donc, dont je me tairai le nom... la façon dont il va mourir et comment il va mourir. Je vous laisserai découvrir ça dans le comics. Hein. C'est très intéressant, très sympa. Et il y a surtout un impact sur Miles Morales parce qu'il obtient ses pouvoirs donc, d'une araignée, comme sur la BD que j'ai parlé dans le dernier podcast. Donc là, on reste sur la même lignée, donc piqué par une araignée qui vient des laboratoires d'Osborn, donc du bouffon vert, et qui le pique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre donc un Miles Morales sans pouvoir, sans rien. Un peu comme Spider-Man dans les films, les premiers films qui étaient sortis, pour ceux qui n'ont connu que par les films. Et on voit donc un petit Miles qui est un peu partagé entre sa vie un peu désuète, pauvre avec ses parents, un peu compliqué, où il essaye d'intégrer une grande école où tu entres que sur une loterie. Donc c'est que comme au loto, quoi, tu tires, si t'as le bon numéro, tu rentres dans l'école, quoi. Donc c'est vraiment très compliqué. Donc bon, là je spoil pas, mais il rentre dans l'école et il a un oncle apparemment qui a une double vie et qui fait un peu le héros entre guillemets parce qu'on sait pas trop ce qu'il fait réellement le soir avec un costume et donc il va être un peu Miles tiraillé entre les deux. Mais ce qui est très intéressant dans ce comics qui reprend donc les épisodes 1 à 10 d'Ultimate Comics Spider-Man, c'est de découvrir ce personnage avec les pouvoirs qu'il a et comment il va les découvrir, parce qu'on parle beaucoup de ce nouveau Spider-Man que Miles Morales incarne, mais il n'a pas les mêmes pouvoirs, mais pas du tout que Spider-Man, alors qu'il a été piqué par une araignée, voilà, mais c'est pas la
similaire,
même
ouais.
Voilà, mais c'est pas la même araignée, parce que ça c'est une araignée qui a été créée par Osborn, et il a des pouvoirs complètement différents, et il n'a pas de toile d'araignée lui déjà. Alors sachant que Spider-Man n'a pas de toile d'araignée non plus, c'est lui qui les conçoit, c'est lui qui met des appareils sur ses poignets pour avoir des toiles d'araignée. Lui, il en a pas du tout. Il a d'autres pouvoirs. Alors, il peut s'accrocher comme une araignée sur les murs. Il a les réflexes. Et voilà, il a le huitième sens le sens de l'araignée, etc. Il y a plein de trucs. Mais il a d'autres pouvoirs très intéressants et que je vous laisserai découvrir.
Est-ce que ce comic c'est un one shot ou on sent
qu'il y a plusieurs comics? Justement, voilà, de suite, c'est le premier. C'est pas un omnibus. Il y a une histoire complète. Alors, oui, on pourrait s'arrêter là. On pourrait dire, on s'arrête là. Mais non, ça finit sur un cliff. Il y a un beau cliff de fin. Et donc, on attend la suite. Et j'espère qu'on aura la suite rapidement. J'ai pas trouvé la date, mais c'est le premier tome de Miles Morales qui regroupe les épisodes 1 à 10, j'ai bien dit. Donc après il y a les épisodes suivants d'Ultimate Comics Spider-Man 11, 12, 13 qui doivent arriver, mais voilà, Panini regroupe souvent des petits comics sortis en un seul tome et ils font plusieurs tomes comme ça de suite. Donc bah voilà, coucou Panini, si tu m'entends, j'espère avoir vite la suite de cet ensemble de comics qui regroupe plusieurs aventures et qui ont une suite logique. Mais c'est vraiment bien découpé parce qu'on commence vraiment sans pouvoir. Il découvre ses pouvoirs, il commence à les maîtriser.
Ouais, on sent que c'est comme une histoire de chapitre, comme dans un manga, on va dire. Quoi.
Voilà, c'est vraiment comme un manga regroupé dans une sorte d'omnibus qui n'en est pas un, mais voilà, qui est assez épais. Je n'ai pas le nombre de pages parce que je ne me suis pas amusé. Alors,
232, moi je suis sur la fiche. 232 pages pour 11 euros.
Voilà, c'est ça. C'est 1 euro plus cher que la BD, mais voilà, il y a beaucoup plus de pages, c'est plus petit.
Beaucoup plus de pages, ouais.
C'est un format un petit peu plus petit, un petit peu plus grand qu'un manga. Voilà, il faut rajouter quoi, une dizaine de centimètres en hauteur de plus et de 5 à 7 centimètres de sur le côté un peu plus long, mais voilà, c'est vraiment pas cher et c'est 10 balles. Donc franchement, foncez pour découvrir ce nouveau Spider-Man.
Ok, c'est cool, bah, ça donne envie, puis ça peut être une bonne idée pour associer avec le jeu, comme tu disais, sur PS5 et PS4 qui va sortir
le
19 novembre dernier. Ok, prochain plutôt, pas dernier, parce qu'on n'est pas encore en fin novembre, malheureusement. On aurait la PS5 et on ne vous ferait pas de podcast.
C'est pas faux.
On va terminer avec un manga comme promis. On va parler de Dead Company. Donc c'est une nouvelle licence disponible chez Kayun. Actuellement, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a qu'un seul tome. Il y a 3 tomes au Japon. Donc c'est vraiment une licence très courte. Si vous voyez la couverture, je suis sûr que vous allez vous dire, putain, mais je connais ça. Effectivement, en fait, l'auteur, c'est l'auteur de Doubt ou de... il y a encore quoi chez lui? Si je dis plus de... Bon, bref, je suis sûr qu'il y a Doubt, ça c'est sûr. Et Juju, qui est vraiment dans le même style graphiquement et dans la même ambiance de survival horror. On va découvrir donc Ryosuke, qui est le survivant justement d'un terrible massacre. Donc on va se rendre compte qu'en fait, il est survivant d'un jeu de survie. Tu sais, un peu à la... Comment ça s'appelle, qui est super connu là. Bon bref, ça m'en reviendra, on s'en fout. C'est le survivant donc d'un jeu de survival horror. Quelques années après, il a toujours un peu du mal à oublier tout ça, parce qu'en fait on apprend qu'il a dû sacrifier sa copine pour être le survivant de ce terrible jeu. Et en fait, il va avoir une proposition d'embauche. Lui qui voulait quand même retrouver une vie normale, une vie active et puis penser à autre chose, il va être débauché par la société Dead Company, qui est une société spécialisée dans la production de jeux vidéo de survie. Donc là, on se dit que il n'a pas été débauché pour rien. Et effectivement, elle, cette société recrute principalement sur un critère assez étrange, c'est d'avoir vécu une expérience hors norme. Alors effectivement, Ryosuke a vécu plutôt une expérience hors norme puisqu'il est survivant d'un terrible massacre. On va se rendre compte qu'en fait, cette compagnie cache de nombreuses choses. Elle recrute pas les personnes uniquement pour avoir leur avis, mais elle recrute aussi ces personnes parce qu'en fait, c'est un mini spoil, mais vous le découvrirez très rapidement. Cette compagnie, en fait, pour faire des jeux très réalistes de survival horror, organise aussi des survival horror. Donc, Ryosuke va vite se rendre compte que c'est un bordel dans lequel, malheureusement, il est déjà trop tard pour s'en échapper, mais il va aussi se rendre compte qu'il peut peut-être potentiellement sauver des vies et éviter certaines conneries. Et bonus, il va se rendre compte surtout que l'un des organisateurs du jeu dans lequel il a participé, dans lequel il a survécu, dans lequel il a tué sa petite copine, est potentiellement l'un des développeurs de cette société. Donc lui, son but, ça va être de sauver des vies, ça va être de se venger, et ça va être peut-être de faire fermer cette putain de compagnie qui finalement ne crée que des massacres. Et alors effectivement, elle crée peut-être des bons jeux qui sont bien joués et qui se vendent comme jamais, parce que c'est une des compagnies les plus productives du Japon. Mais il y a un hic derrière, quoi. Et la lecture, franchement, de ce premier tome est vraiment plaisante. On sent que ça avance vite parce qu'effectivement, comme c'est un manga, encore une fois de plus, qui est court, disponible uniquement en 3 tomes chez Kayun. Là, actuellement, il n'y a qu'un tome, hein, mais c'est disponible en 3 tomes. On sent que voilà, l'auteur, il n'a pas le temps, quoi. Fin du premier tome, tu as déjà un premier cliffhanger où tu dis « Oh putain, bordel !» Ah ouais, effectivement, tu sens que le deuxième tome, ça va attaquer sec. Et que le troisième tome, il sera là pour conclure, quoi. Je pense que le premier chapitre du troisième tome, on sera encore dans un truc un peu wow, c'est la fin. Mais la moitié du dernier tome, ça va être une bonne conclusion, je pense. Donc voilà, c'est un manga qui est pas inintéressant, qui reste un peu dans le délire que l'auteur fait avec son Judge et son Doubt au niveau surtout graphiquement et au niveau de l'univers. Je trouve que l'auteur il prend pas beaucoup de risques, mais celui-ci, comme il est court, ça peut être intéressant de le lire aussi, quoi.
D'accord, ouais, ça a l'air sympa.
Ouais, ça peut être un bon délire, ça pourrait même être un bon film ou une bonne série, tu vois. C'est vraiment le genre de truc survival horror qui marche bien, quoi, tu vois, un peu la Saw et compagnie, quoi, tu vois.
Ouais, bah ouais, effectivement.
C'est ça. Bon, bah écoute, merci encore une fois de plus pour ta participation.
Mais de rien. C'est un
podcast agréable en ta compagnie.
Bah, c'est toujours agréable avec moi, tu le sais bien.
Je sais, c'est ça qui pose problème. Comme toujours, si vous avez envie de participer, n'hésitez pas, on reste disponible. On peut parler de manga, comics, jeux vidéo et des séries. Et on vous fait des gros bisous, on vous dit à bientôt.
Et un petit teasing pour le prochain podcast. On aura un invité, un attaché presse de Koch Media. Pour ceux qui connaissent pas, généralement c'est les éditeurs de Sega en France qui nous proposent les jeux. Donc voilà, il viendra parler un peu de son boulot, de peut-être des futurs jeux qui peuvent arriver, etc. On verra bien.
Ça peut être très cool. À bientôt.
À bientôt. Salut tout le monde.